particulier en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et au Qatar. Depuis plusieurs semaines, son attention s'est beaucoup déplacée sur les relations avec ces pays-là, les relations économiques et commerciales. Beaucoup d'attention avec les frappes aériennes américaines contre les Houthis au Yémen. Donc, il y a un peu un désengagement, un manque d'intérêt de sa part. On sait que son temps d'attention est extrêmement limité. Il n'est pas du tout intéressé par les détails. Et puis, quelque chose qui est aussi extraordinairement compliqué que le conflit entre Israël et le Hamas, c'est comme s'il avait perdu un peu intérêt. Alors, une impression qu'on peut avoir, c'est qu'à l'avance, avant son voyage la semaine prochaine dans le Golfe Persique, il veut que l'enjeu Israël-Hamas prennent un peu moins de place et ne prennent pas en otage, si on veut, son voyage.
Au-delà de la réaction de Trump, parlons de la réaction du reste du monde. Est-ce que vous croyez que les membres de l'ONU, les membres de l'Europe, l'ensemble des pays d'Occident et du reste de la planète vont accepter cette pression d'Israël sur le territoire gazaoui? Il y a un journaliste israélien, et puis si c'est pas lui qui l'avait dit, je ne le dirai pas, qui a parlé de la possibilité de la création d'un camp de concentration là, à Gaza. Donc, est-ce que le monde va accepter cette pilule-là aisément?
Ben, pour être très cru, ce que le monde va accepter ou pas, c'est pas très important. Et quand je dis ça, je veux pas dire au niveau moral. Au niveau moral, évidemment que ça a une importance abstraite, mais concrètement, politiquement, matériellement, l'opposition des pays africains, sud-américains, asiatiques, même européens ou le Canada, ça va avoir un impact très limité. En Israël, il y a une audience extérieure et c'est à la Maison-Blanche. Et en ce moment, c'est plus ou moins une carte blanche. Du point de vue d'Israël, il y a pas grand autre chose qui compte au niveau des réactions de la communauté internationale.
Le journal Le Times d'Israël a rapporté qu'il y a encore 59 otages détenus par le Hamas, dont une quarantaine seraient toujours vivants. Est-ce que vous avez cette information?
Il y a plusieurs chiffres qui circulent. Il y aurait quelques douzaines d'otages, entre 50 et 60. Moi, le chiffre que j'ai vu ce matin, c'est à peu près 25 qui seraient encore vivants.
Okay.
Mais encore là, il y a beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là, parce qu'il y en a qu'on peut penser être vivants qui auraient pu là, malheureusement être morts dans les dernières semaines ou les derniers mois. Donc, c'est pas comme si le Hamas publiait ces statistiques-là de façon transparente sur son site web. Là. Alors, on le sait pas. Du point de vue du Hamas, il faut toujours s'en rappeler, les otages qui restent, c'est des boucliers humains, même s'ils sont décédés. Alors, le Hamas est très, très, très réticent à libérer les otages plus qu'au compte-gouttes parce qu'il les utilise comme protection, comme bouclier humain. Il ne faut jamais oublier dans tout ça, on critique beaucoup avec raison Israël, on n'a pas tort, mais le Hamas, ça demeure un groupe terroriste extraordinairement brutal qui a pris ces otages-là et qui refuse de les laisser partir.
En terminant, M. Junot, une question sur les outils. Là, moi, j'ai pas compris l'attaque de l'aéroport Ben-Gourion. Un groupe de révolutionnaires du Yémen à 1800 kilomètres, je pensais que au plus, ils auraient été fiers d'envoyer un missile qui se rendrait à peu près dans la direction d'Israël. Là, non, ils ont envoyé un missile qui a réussi à passer à travers la défense antiaérienne israélienne sur un aéroport, donc une zone hyper protégée. Comment Dieu, c'est possible?
Ben d'abord, c'est un échec pour Israël. C'est un échec important là, des défenses antimissiles et antiaériennes israéliennes qui sont extraordinairement performantes. Mais même les systèmes les plus performants au monde ne sont pas parfaits. C'est jamais 100%. Pour les Houthis, au niveau matériel, c'est très marginal. Le dommage a été minuscule. Il y a eu 6 blessés mineurs, puis il n'y a pas eu de dommages là, importants sur l'aéroport. Mais pour les Houthis, c'est une victoire de propagande importante. Ça leur permet de se positionner comme les champions de la résistance, entre guillemets, contre Israël, contre les États-Unis en même temps. Et on le voit déjà depuis 48 heures dans les différents canaux de propagande sur Telegram, sur les médias sociaux que les Houthis contrôlent. Il y a énormément de manipulation de ça comme une victoire symbolique importante. Puis c'est en partie pour ça que les Houthis le font. Là. C'est de la propagande.
Merci.
Merci beaucoup, M. Junot.
Merci à vous.
Thomas Junot, on rappelle, professeur titulaire à l'École supérieure d'affaires publiques internationales à l'Université d'Ottawa. Luc, te rappelles-tu, il y a 2 semaines, Abu Dabas, le chef de l'autorité palestinienne, a déclaré « fils de chien, libérer les otages » en parlant du Hamas. Le Hamas est, tout comme Israël, responsable de tous ces crimes de guerre qui sont commis sur le territoire gazaoui, parce que le Hamas se sert des otages comme bouclier humain, mais se sert aussi de la population civile,
de sa population qui crève de faim.
Écoute,
c'est horrible.
C'est horrible. Après la pause, ben, on vous parle de cette bonne nouvelle, entente de principe avec les centres de la petite enfance associés à la Fédération de la santé des services sociaux CSN.
Réveil Rimouski avec Michel Turcotte. l'année passée, de la neige, là, on n'avait plus. Et puis, je suis allé là dans l'autre pays en fin de semaine, là, ouais, rapidement, puis on en voit encore là à plusieurs endroits. On en annonce encore pour jeudi, mesdames, messieurs.
Oui, mais ça, on va en prendre par le ouais, vendredi, il y en a.
Parce que ouais, souvent, ces équipes canadiennes-là, pas les équipes A, là, c'est les équipes C, B, des fois. Là. C'est un tournoi qui passe dans le beurre. Ouais. Ouais. Ça passe dans le beurre un peu parce que c'est les séries de la Coupe Stanley et la Coupe Memorial aussi, on le suit de loin. T'sais, le Canada perd, gagne pas la médaille d'or à ce tournoi-là, c'est pas la fin du monde. Là. Mais c'est une autre chose pour d'autres compétitions.
Parce que les groupes de défense là, de la chasse et de la pêche là, sont montés au créneau contre la réforme là, de Mme Maïté Blanchette-Vézina. Ils accusent les entreprises d'avoir tout ramassé, mais il n'y a pas seulement les scieurs, il y a aussi les producteurs de bois, les boisiers privés.
Réveil Rimouski, en semaine dès 6h, au FM 93 Rimouski.
Electro, votre électricien de confiance à Rimouski, c'est l'endroit par excellence pour magasiner vos produits de chauffage, d'éclairage ou bornes de recharge. Avec les dernières pannes électriques, vous envisagez l'installation d'une génératrice à votre résidence ou chalet? Nous sommes dépositaires des génératrices Kohler au propane et sans odeur. Venez nous rencontrer sur la rue des Fabricants. Faites confiance à une équipe professionnelle pour des installations sécuritaires et fiables. Pour vos petits ou gros travaux, on pense toujours à Electro. 418-724-4433 ou le chèqueélectrique.com.
Vivez l'aventure avec Ricky Block, coopérative d'escalade. Installée dans l'église de Rimouski-Est, l'équipe de Ricky Block vous accueille dans ses locaux de plus de 19 000 pieds carrés. Grimpez, étudiez, détendez-vous, rencontrez des amis et profitez de notre café et boutique d'escalade. Petits et grands, connaisseurs ou novices, il y en a pour tout le monde. Notre équipe de grimpeurs expérimentés vous attend. Pour plus d'informations, visitez-nous au rickyblock.com. Rejoignez la communauté, vivez l'aventure.
C'est le sprint du printemps chez Santé 2000 Le Club. Santé 2000 est en mode anti-inflation avec des rabais allant de 15 à 30% sur nos abonnements en salle, les cours de groupe, les combos et même de 75% sur le club en ligne. Prenez votre santé en main à partir de 1,25$ par jour. Abonnez-vous pour 3 mois en duo et obtenez 10% de rabais supplémentaires. C'est le sprint du printemps chez Santé 2000 Le Club. Bienvenue au club! Inscription santé2000leclub.com. Certaines conditions s'appliquent.
Parce que nous tenons à nos clients, Alignement PMM t'invite à prendre rendez-vous pour préparer ton véhicule pour l'été. Que ce soit pour un changement d'huile, un alignement ou tout simplement une réparation, Alignement PMM est là pour toi. Tes vieux pneus d'été fondus? Pas de problème, on en vend. On vend aussi des pièces de qualité. Parlant de qualité, celle de notre service n'est plus à faire. Prends rendez-vous dès maintenant. Alignement PMM. 418-722-6727. 418-722-6727.
Ici Jean Brisson. Mesdames, messieurs, vous êtes à la recherche d'une bonne résidence pour aînés où l'on prendra vraiment soin de vous ou de votre aîné. Ah ben, vous aimeriez choisir la meilleure résidence de la région du premier coup? Faites le 418-723-0243. La résidence Seigneur Lepage de Rimouski répondra à votre appel et comblera toutes vos attentes. 418-723-0243.
FM 93, Rimouski, la radio qui fait jaser dans le Bas-Saint-Laurent. FM 93, Rimouski.
Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez La Commission.
N'hésitez pas à nous écrire via la messagerie texte 98-98-5 ou encore le courriel lacommission@98.5fm.ca. Ça fait partie, Luc, des bonnes nouvelles du jour, cette entente de principe entre le gouvernement et les centres de la petite enfance associés à la Fédération de la santé et des services sociaux CSN. Avec nous, Stéphanie Vachon, qui est représentante pour tous ces CPE. Bonjour à vous, Madame Vachon.
Bonjour.
Quelle excellente nouvelle, une entente de principe. On comprend que vous n'êtes pas autorisé à nous dévoiler le contenu de cette entente, mais déjà d'avoir obtenu une entente de principe, qu'est-ce qui a fait que vous y êtes arrivé?
Oui, ça a été plusieurs jours de travail en conciliation. En fait, ben, on aurait pu y arriver autrement, mais je voyais pas le bout. Donc, en demandant la conciliation, ça nous a vraiment permis là, de trouver un terrain d'entente puis de rapprocher les deux parties.
Oui, alors d'habitude, lorsqu'il y a un arbitre ou un médiateur, il va viser le juste milieu. Ça donne pas des ententes correspondant à, tu sais, quand vous voulez avoir des mesures correctives pour des augmentations de salaire ou des situations, par exemple le nombre de personnes d'intervenantes en garderie à chaque heure, etc. C'est rare là, que l'arbitre va aller carrément du côté du syndicat. Ce que je comprends, c'est que vous êtes arrivé à la conclusion que vous ne pouviez pas obtenir ce que vous vouliez.
Ben, je voudrais pas sauter aux conclusions trop rapidement, mais bien entendu qu'un complicateur, ça fait effectivement trouver une piste d'atterrissage qui va contenir aux deux parties. Mais je vous dirais que les deux parties, autant syndicales que patronales, on a eu beaucoup d'aller-retour toute la fin de semaine pour vraiment que tout le monde mette l'effort et l'épaule à la roue pour arriver à une piste d'atterrissage puis une entente de principe.
Oui, vous êtes arrivé à cette entente de principe à quel moment précisément?
En fait, il était 1h dans la nuit hier soir là, qu'on a pu se dire qu'enfin nous avions trouvé quelque chose qui allait satisfaire les deux parties. Je vous dirais qu'on aurait préféré, bien sûr, avoir plus puis pas avoir à terminer en conciliation. Mais effectivement, là, il était 1h hier soir quand on a pu arriver à la fin du parcours.
Je vous pose la question parce que souvent, l'heure à laquelle on finit par arriver d'entente de principe est assez révélatrice des efforts qui ont été déployés pour y arriver 1h du matin. Ça semble être le cas. Est-ce que vous avez confiance que maintenant les 13 000 travailleuses des 400 centres de la petite enfance vont approuver cette entente?
Ah non, je m'avancerai pas jusque-là. Vraiment, je vais me garder une réserve parce que je veux pas influencer la décision des travailleurs CL qui vont se prononcer. Mais dans un premier temps, on va la présenter à leurs syndicats de partout au Québec. Et les représentants des syndicats devront décider si elles en font la recommandation ou non et si elles vont la présenter en Assemblée générale.
Et quel est l'échéancier devant nous, Madame Vachon, pour peut-être nous parler, nous faire part du calendrier devant vous pour atteindre, là, pour passer à travers toutes ces étapes qui s'annoncent, oui. Là. Oui.
Bien, on va faire la convocation dès qu'on aura trouvé le lieu où est-ce qu'on va pouvoir faire notre conseil. On appelle ça un conseil sectoriel, nous. On va faire venir les syndicats de partout au Québec en réunion deux jours. On viserait la semaine prochaine. Et ensuite, les syndicats auront un délai déterminé pour aller rencontrer leurs membres. Puis là, on n'a pas encore déterminé le délai, fait que je veux pas m'avancer, mais habituellement, on vise deux semaines là, de consultation, le temps de rencontrer tout le monde. J'ai des régions qui sont très populeuses, là. On a un gros syndicat, entre autres Montréal, ça prend vraiment une grosse salle. Fait qu'il peut y avoir un enjeu à ce niveau-là, mais on viserait 3 semaines là, pour obtenir les réponses de tout le monde.
Est-ce que vous, sans nous révéler, bien entendu que vous ne le feriez pas, nous révéler les détails de l'entente, puisque vos propres membres ne sont pas encore au courant, mais est-ce que vous diriez qu'il s'agit d'une entente historique qui met la table pour une entente à long terme, ou vous diriez qu'il s'agit d'un retour au travail circonstanciel qui prend en compte le contexte qui est les ressources de l'État et le fait que les autres syndicats avaient déjà signé?
C'est comme une réponse toute faite. Hein? Je vais prendre la B.
La B, la solution.
La B.
C'est ça, c'est deux wontons, une soupe wontons, deux rouleaux.
Mais là, vous prenez la B, mais encore, Madame Vachon.
Mais encore, mais non, il ne s'agira pas d'une entente historique là, qui va régler tous les problèmes dans le réseau des CPE. La situation est vraiment critique. On a une grande pénurie de personnel. On n'a plus d'étudiantes qui choisissent cette profession-là. On a placé dans l'univers médiatique, la disparité qu'on avait avec le secteur public, mais le gouvernement va devoir se pencher sur cette problématique-là sérieusement. Et je vous dirais qu'on a réussi à aller faire avec ce qu'on avait sur la table, hein, parce que, comme vous l'avez dit, on avait d'autres centrales syndicales qui ont eu une entente avec nous. On avait un gouvernement qui maintenait mordicus à ses paramètres salariaux. On a un contexte économique qui est très défavorable, et plus les mois s'écoulent, plus le contexte va en défaveur pour nous. Donc, tous ces éléments-là devaient être pris en considération par nous pour vraiment arriver à une entente qui était avec ce qu'on avait dans les mains, qui allait vraiment permettre aux travailleuses de pouvoir la regarder sérieusement, hein, pas la rejeter du revers de la main, mais elles devront se pencher dessus. Est-ce que ce sera une entente historique qui va plaire à tout le monde? Ce ne sera pas du tout comme la dernière fois. La dernière assemblée en 2021, j'avais des travailleuses qui pleuraient dans la salle et qui nous remerciaient du travail accompli, qui n'avaient jamais vu ça. On n'aura pas ce contexte-là cette fois-ci, assurément pas.
Merci beaucoup, Stéphanie Vachon.
Merci à vous. Au revoir.
Donc, ça fait partie des bonnes nouvelles du jour, cette entente de principe. Elle l'a dit, on se donne 3 semaines là, pour arriver à une réponse finale.
Oui,
pragmatisme et réalisme.
Ça nous dit de quoi est faite l'entente.
On verra, là. Bon, je n'ai pas spéculé, Luc, on ne l'a pas vu le contenu.
Ben, écoute,
on fait peur à personne.
Il y a pleuré de joie dans la salle, un. Mm-hmm. Deux, elle a choisi l'option B. Soupe wontong, deux rouleaux.
Non, mais en même temps, il n'y a personne qui va